Bonjour et bel après-midi en ce dimanche 12 mai 2013. En mai, rappelle-toi de ta nature divine comme il te plaît. Voilà, aujourd'hui c'est le jour pour se rappeler de notre nature divine. Un groupe de partage sur la non-dualité dans l'esprit d'un cours en miracle et de tous les ouvrages non-duel qui rappelle tous une seule vérité, nous sommes tous un, nous sommes un, nous sommes esprit. Voilà, je vais commencer avec un petit son de cloche. Ça sera aussi l'occasion d'inclure, d'intégrer nos chers frères et sœurs qui, fidèlement, semaine après semaine, nous suivent à distance en écoutant l'enregistrement et qui sont dès maintenant dans notre groupe. Merci. Alors je vais introduire le groupe en donnant quelques directions. Je vais aussi laisser la direction de ce groupe à l'esprit dans le contenu des partages, dans ce que nous dirons ou si nous choisissons de rester en silence, nous pouvons communiquer tout aussi bien dans le silence que dans le partage de mots et de même pour les frères et sœurs qui nous suivent à distance. Ce silence n'est jamais vide, il est saturé de nos consciences, de nos présences, de cette vérité qui nous fonde. Hein. Nous sommes un, bien que nous voyions des choses différentes. C'est le but même de cette réunion, de parler de ces différences de perception qui sont dans nos vies. Alors, je vais commencer en citant cinq belles phrases qui apparaissent à la page 30 d'un cours en miracle que je connais par cœur parce que je les cite moi-même souvent intérieurement et qui m'aident beaucoup à laisser faire les choses plutôt qu'essayer de les contrôler. Et elles disent simplement ceci: je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Et puis, d'ores et déjà, une précision, celui qui m'a envoyé, c'est la partie de moi élevée qui connaît la vérité, qui connaît l'unité, qui n'est pas dans ce monde de dualité. Et donc, bien sûr qu'il va avec moi partout où je vais. Et bien sûr qu'il m'envoie là où je dois être. Parce que la situation ou la relation qui se passe à ce moment-là est celle dans laquelle il m'accompagne pour retrouver ce chemin de l'unité, de la lumière qui est en moi. Donc, il s'agit pas du tout d'être le pantin d'une entité quelconque. Hein, c'est moi dans une autre perception plus vaste hein, qui me dirige moi-même. Et le cours appelle celui qui m'a envoyé, il l'appelle le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'esprit pur, l'esprit qui n'est pas entaché de l'idée d'erreur, l'idée de faute, l'idée de culpabilité et surtout de pensée de séparation. La séparation, c'est l'origine de la dualité que nous vivons. Et la séparation en elle-même n'est ni bien ni mal. En soi, c'est une expérience que, en tant qu'être divin, nous avons souhaité vivre. sauf que nous n'avions pas préjugé des conséquences de là où la séparation, de la profondeur de l'obscurité dans laquelle cette séparation nous entraînerait, et en particulier de l'aspect de la culpabilité qui a pu se dégager pour la plupart des humains après que cette séparation a eu lieu dans notre perception. La culpabilité, c'est « Oh là là, quelle bourde j'ai fait, oh là, je me suis séparé de Dieu, oh, je vais sûrement être puni là, je vais sûrement, j'ai fait un truc qui va pas plaire à Dieu. » Alors que Dieu est amour inconditionnel et que Dieu accueille toute expérience et que toute expérience n'a qu'un seul but, c'est celui de nous ramener dans notre maison unique, dans l'unité, partir de ce monde de dualité pour aboutir par notre propre chemin et nos propres moyens, surtout, à l'unité, à la perception, où tout est un, où il n'y a plus de séparation entre les personnes, les objets, et qu'il n'y a que Dieu, en fait, dans l'unité. Donc, nous répétons souvent dans ces groupes cette phrase très courte et qui résume tout, qui dit simplement, en deux mots, Dieu est. Et cette phrase ne parle pas d'un Dieu qui serait à figure humaine, hein, et ne parle pas d'un Dieu qui serait extérieur à nous, ni dogmatique, tel que présenté par certaines religions. Il parle de Dieu comme on pourrait dire la source, comme on pourrait dire tout ce qui existe, comme on pourrait dire l'univers, comme on pourrait dire l'amour universel, comme on pourrait dire mon guide en permanence. Il y a une infinité de mots pour décrire ce qui ne peut pas être décrit par des mots, mais qui relate quand même quelque chose d'universel, hein, et qui englobe tout, et qui ne peut pas être séparé de moi, et je ne peux pas être séparé non plus de Dieu. Donc Dieu est, ça résume la totalité de l'existence au sens large. Tout ce qui existe est contenu dans Dieu. Nous sommes comme des étincelles d'une même flamme, hein, ou comme des vagues d'un même océan, hein. Il y a, c'est difficile de parler de multiplicité au sein de l'unité. Et pourtant, nous avons à un moment donné, en tant qu'être divin, posé une question à laquelle il y a normalement pas de réponse. Et la question, c'était: que se passerait-il si nous n'étions pas divins? Parce que nous avons voulu jouer à faire une expérience. Et cette expérience a été honorée. Ça veut dire que comme nous sommes divins et que nos désirs sont des ordres, alors ce désir-là a été honoré. Mais comme nous ne pouvons pas ne pas être divins, puisque c'est une nature qui est irréversible, inchangeable, invulnérable, alors nous l'avons simplement imaginée. Mais alors l'imagination d'un être divin peut absolument tout. Est doté d'effets qui semblent tout à fait réels. Hein. Et donc nous avons imaginé un monde qui pour nous est tout à fait réel, qui semble avoir des effets réels, semble être dense, et puis semble aussi être doté d'attributs d'impermanence. Il y a des choses qui vont et qui viennent, qui passent, qui s'éteignent, qui naissent, qui meurent. Voilà. Et même si dans l'unité, il n'y a que Dieu, amour absolu, inchangeable, invulnérable, éternel, omnipotent, omnipuissant, omniscient, félicité absolue, joie, voilà quelque chose que même ces mots ne peuvent pas vraiment décrire. Hein. Nous pouvons avoir l'inspiration, l'intuition de la grâce absolue qu'est Dieu, sans jamais le ressentir vraiment en tant qu'humain, parce que nous avons volontairement limité notre esprit pour oublier ce que c'est qu'un état d'esprit divin. Parce que si nous n'avions pas limité notre esprit, ce monde de dualité n'aurait pas duré plus qu'une seconde. Hein, et quand je dis une seconde, c'est déjà beaucoup. Donc, il y a un voile de séparation hein, sur notre esprit divin. C'est comme si notre esprit était divisé en deux. Une partie qui veut jouer à la séparation. Et donc, forcément, je dois y croire. Hein, et pour y croire, je ne peux pas à la fois savoir que je suis divin et en même temps croire que je suis dans un corps, croire que la matière est solide, croire que je vais mourir. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont pas compatibles, disons, avec la nature divine. Donc, comme nous sommes divins, eh bien, nous avons amené une solution à ça. Oublions momentanément. Oublions qui nous sommes momentanément. Et le but du jeu, c'est de trouver un chemin qui nous le rappelle, hein, par nous-mêmes, sans aide extérieure. Et c'est un sacré défi. Hein, ça, vraiment, voilà. Si vous regardez en arrière dans votre vie, vous qui êtes là dans cette pièce, vous, toi qui écoutes en ce moment l'enregistrement près de tes haut-parleurs, alors peut-être peux-tu voir toutes les étapes successives qui t'ont amené à faire grandir ta conscience jusqu'à écouter cet enregistrement, jusqu'à être ici avec cette question fondamentale, qui suis-je ? Hein ? Et cette question est le moteur, est un moteur important de notre retour à la maison. Si nous ne nous posons pas la question « qui suis-je ?», alors ben, nous restons dans l'inconscience en permanence, dans l'inconscience de qui nous sommes. Donc, comment se fait-il que nous arrivions un jour à nous poser cette question ? Hein, c'est intéressant. Et si nous pouvions, si nous comparons simplement les expériences des personnes, du peu de personnes que nous connaissons par rapport aux 7 milliards d'humains, sans parler de toutes les autres créatures dans l'univers. Alors, pratiquement dans chaque personne que nous connaissons, il y a un parcours évolutif, d'évolution. Il y a évolution, il y a involution. De temps en temps, on semble régresser. Je dis bien « on semble hein ». Et aussi bien l'évolution que l'involution ont un but, ont une utilité. C'est l'involution, c'est par contraste, je m'éloigne de l'amour pour mieux dire « ah ben c'est l'amour que je veux ». Maintenant que j'en suis loin, je vois à quel point c'est important parce que je m'en sépare. Et je peux pas m'en séparer. En rêve, oui, mais pas dans la réalité de Dieu, hein, de tout ce qui existe. Et lorsque j'évolue, alors c'est la félicité en moi qui grandit, c'est la confiance en moi qui grandit, qui me dit, je me suis pas trompé, c'est bien là où je veux aller. C'est bien vers de plus en plus de conscience, c'est bien vers un amour de plus en plus inconditionnel. Alors, même si dans la réalité de Dieu est, il n'y a pas autre chose que l'amour inconditionnel, puisque il n'y a que l'amour et rien d'autre, il n'y a que Dieu et rien d'autre, et donc il n'y a pas « je t'aime si Dieu pourrait dire « tu veux faire l'expérience de la haine, sois béni, fais l'expérience de la haine. Tu veux faire l'expérience de la souffrance, même à son paroxysme, vas-y, plonge là-dedans et regarde en quoi ça t'aide à remonter, à revenir. » Donc c'est intéressant parce que Dieu ne juge pas nos expériences, quelles qu'elles soient, ne juge pas les meurtres, les génocides, les pédophiles, les criminels. Tout ça, en réalité, n'existe pas. Pour nous, bien sûr, c'est réel, mais c'est une réalité que j'appelle relative. Il y a une réalité qui est absolue, et la réalité absolue, c'est Dieu. Donc, c'est intéressant de voir que ce qui existe dans une des réalités n'existe pas dans l'autre. Et notre but, c'est de trouver le chemin d'une réalité vers l'autre, pour progressivement retourner vers ce qui est vrai et lâcher toutes les croyances qui sont erronées, hein, qui parlent de cette question fondamentale, est-ce que autre chose que l'amour peut exister? Dans le monde de Dieu, il n'y a que l'amour. Et nous avons voulu sortir de l'amour, même si c'est impossible, pour expérimenter le non-amour et voir, avoir une perspective sur l'amour. Quand je suis dans la haine, je peux avoir une perspective sur l'amour. Mais si je suis dans l'amour, je n'ai aucune perspective. C'est-à-dire, il n'y a pas de contraste. Nous avons choisi un monde de contraste. Je peux dire, c'est fabuleusement réussi. Bravo, les humains. Hein, parce que nous vivons jour et nuit, c'est le cas de le dire, dans un monde où il y a des polarités. Des polarités en permanence. Je bascule de l'ego vers l'être d'amour que je suis, l'être qui se croit séparé, vers l'être illimité. Je bascule vers je t'adore et ensuite je te hais, je peux plus te voir. Voilà, je peux être dans l'accueil absolu, le non-jugement, et puis à un autre moment être terriblement irrité par une situation et vouloir que ça change et vouloir changer l'autre. Voilà, bravo, c'est réussi. Hein, je le dis vraiment joyeusement parce que, en vérité, c'est un jeu. La séparation est un jeu. Mais un jeu duquel nous avons oublié de rire. Et c'est l'absence de rire qui a fait que ça a eu des effets dans notre esprit égotique, divisé, qui peuvent être difficiles pour nous et qui peuvent être, comme je disais, empreints de culpabilité. Parce que nous avons pensé que c'était une grosse bêtise à faire que de quitter la maison de Dieu. Alors, bon, dans l'unité, c'est impossible de quitter Dieu. S'il y a bien une chose qu'on dit et qu'on répète dans ces réunions, c'est « il n'y a que Dieu hein. ». Donc, nous ne pouvons pas quitter Dieu. Notre esprit pur est toujours dans Dieu et nous guide pour le retour à Dieu. Hein. Alors, pourquoi ça prend du temps? Parce que nous sommes dans un monde où nous avons inventé le temps. Dans le monde de l'unité, il n'y a pas de temps. Tout est dans le maintenant. Chaque chose qui est vécue est maintenant, dans notre monde aussi. Mais nous nous attachons au passé, avec la mémoire, avec les souvenirs, en disant, oh, c'était bien, il faut que ça dure, donc je veux prendre le maintenant, le hier et le ramener à aujourd'hui, et là je me perds, puisque je suis entièrement dans mon corps mental, ou dire demain je vais gagner au loto, ça va être super, et là aussi je quitte le maintenant pour anticiper un futur qui n'existe pas encore. Et donc, en définitive, c'est mon mental qui crée le temps, qui crée autre chose que le maintenant. Alors bien sûr, la mémoire nous sert, il y a un calendrier, rendez-vous demain, 14h30, place de la République, ça veut dire quelque chose dans notre monde. Mais n'allez pas donner rendez-vous à Dieu, place de la République, c'est impossible. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que chez nous, il y a un temps calendrier qui n'est pas mental, qui est, Eckhart Tolle disait, il y a un temps calendrier, il est utilisé pour des raisons pratiques et il n'est pas de la même nature que celui qui dit « Oh, c'était bien il y a 10 ans, oh, qu'est-ce que j'aimerais encore être en cette période, oh, mon premier amour, qu'est-ce qu'il était bien, maintenant c'est la galère avec les femmes ou avec les hommes ». Voilà, donc c'est pas la même chose, là je m'évade du maintenant, alors que quand je dis « Oui, on a rendez-vous, d'accord, demain, 14h30, place de la République, et je reviens au maintenant, parce que je vis dans un monde où il y a un calendrier et j'honore, sans quitter mon expérience de maintenant, j'honore ce fait-là qu'il est organisé en mois, heures, secondes, etc. Voilà, alors, il y a une façon de résumer un cours en miracle qui est très très courte, résumer plutôt son sens, résumer plutôt sa portée, qui a été écrite par Gloria et Kenneth Wapnick, des enseignants, qui ont écrit un livre qui s'appelle « Questions et réponses sur un cours en miracle ». Très petit livre, mais très actuel et factuel, et qui donne comment intégrer ces enseignements non-duels de manière concrète dans la vie de tous les jours, en répondant à des questions. Par exemple, qu'est-ce que le suicide en regard de la non-dualité? C'est des questions intéressantes. Hein. Donc c'est un tout petit livre très intéressant qui remet au goût du jour quelque chose qui est fondamentalement théorique pour un courant miracle, même s'il est suivi de 365 leçons qui consistent à l'appliquer jour après jour, hein, dans l'année, ça répond quand même à comment mettre de la non-dualité dans notre monde duel. Et c'est vraiment le but aussi de notre réunion d'aujourd'hui. Alors, il résume en quelques phrases la portée de ce livre majeur de 1300 pages qui nous donne beaucoup, beaucoup d'enseignements. Pour certains, c'est facile à lire. Pour d'autres, c'est un peu plus laborieux. Et pour d'autres, ça provoque d'énormes résistances, telles que prendre le livre et le jeter par la fenêtre. Il y en a qui ont fait ça. Moi, j'ai lu 150 pages. Je l'ai posé pendant un an parce que mon mental voulait tout comprendre et je pétais les plombs parce que j'arrivais à la fin de la phrase, j'avais oublié le début. Et je recommençais à lire et puis je commençais à devenir fou. Donc j'ai dit, c'est pas le moment, je le pose, quand ce sera le moment, je le reprendrai. Et un an plus tard, j'ai repris et j'ai dit, ce que je comprends, c'est bien, ce que je comprends pas, c'est bien aussi. Je continue. De toute manière, il y a tout le temps les mêmes idées, tout le temps. Donc ce que j'ai pas compris au paragraphe 1, je vais le retrouver au paragraphe 2, écrit différemment. Mais j'ai mis 9 mois à accepter ça. Et que mon esprit lâche prise sur « je veux contrôler ce livre hein. ». Ou plutôt « je me laisse faire par les enseignements ». Ce que je dois entendre sera entendu forcément. Quelqu'un dit qu'il y a 700 pages de théorie, mais en vérité, il y a 7 pages de principes fondamentaux qui sont répétés 100 fois, sous plein de formes différentes, parce que c'est toujours « Dieu est, il n'y a que Dieu ». Alors, pour en revenir à ce résumé, Ken et Gloria Wapnick nous disent « Un cours en miracle nous propose une nouvelle façon d'être dans ce monde de rêve qui va bien au-delà de toutes les morales et règles de conduite auxquelles le monde rend hommage. Cette nouvelle façon d'être nous demande de devenir conscients des pensées de notre esprit faux, puis de demander de l'aide pour passer à la correction qui se trouve déjà dans notre esprit juste. Afin d'accomplir cela, nous devons mettre notre ego de côté et lâcher prise de tout désir, valeur morale ou investissement en un quelconque résultat qui touche la conduite, les règles ou les attentes. » Voilà, je trouve que c'est superbement résumé. Ça dit, nous avons un ego ou esprit faux qui nous raconte des tas de sornettes sur qui nous sommes, qui nous limite, nous bride, nous rapetisse, nous donne des messages, tu n'es pas digne d'amour, nous donne des messages invalidants, qui croit profondément dans le fait que nous sommes limités. Et ne parle que de ça tout le temps. Et donc, si nous devenons conscients des pensées de cet esprit faux, alors la conscience qui observe l'esprit faux est l'esprit juste. Donc, nous pouvons alors demander de l'aide à l'esprit juste pour basculer de l'autre côté et voir les choses telles qu'elles sont, plutôt que telles que l'esprit faux, l'ego voudrait les voir. Et en fait, l'ego n'a rien de mal, hein. C'est simplement une manière de brider notre esprit pour voir une réalité limitée, hein. C'est tout. Et c'est donc normal que l'ego ne puisse pas embrasser l'illimité, parce qu'il a été conçu, et c'est notre création, notre fabrication même. Il a été conçu pour réduire les choses en des choses limitées. Donc ne lui demandons pas l'impossible. C'est impossible pour l'ego d'aimer inconditionnellement, parce que l'ego limite l'amour, comme il limite toute chose. Donc, je t'aime si t'es bien gentil, hein, et tu fais ce que je te dis, et tu t'éloignes, mais à la longueur de la corde seulement, pas plus que la longueur de la corde. Si tu casses la corde, je t'aime plus. Si tu coupes la corde, je t'aime plus. Hein, ou si tu fais autre chose que ce qui me plaît, je ne t'aime plus. Ça, c'est l'ego qui parle. Hein. Donc, nous avons inventé avec l'ego l'amour conditionnel et ne demandons pas à l'ego d'aimer inconditionnellement, il ne sait pas. Donc, il y a une correction à ses limites et elle se trouve dans l'esprit juste, celui qui est vaste, illimité, qui est empreint de vérité, qui sait se réjouir, qui a une intuition sur ce que c'est que le très vaste, hein, qui est bien au-delà du temps, de l'espace, de l'ego. Voilà, c'est de ça dont nous pouvons parler aujourd'hui. Hein. Nous ne savons pas le décrire parce que notre esprit est voilé, mais il y a quand même une partie de nous que moi j'appelle l'intuition, qui est reliée à notre esprit juste, forcément, puisque c'est une antenne sur la vérité, sur le monde réel, sur le monde de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans l'intuition, il y a un accès immédiat à ce que moi j'appelle la connaissance universelle. Tout ce qui a jamais été appris, tout ce qui a jamais été su, tout ce qui existe au niveau connaissance est présent sans aucun besoin d'apprentissage en nous. Hein. Certaines personnes font des voyages astraux, certaines personnes sont des walk-in, c'est-à-dire il y a un échange d'âme entre une personne, une âme qui part et une âme qui arrive, et dans le même corps, et le corps reste vivant, mais l'âme, avec le consentement de l'autre, s'est interchangé. Et au réveil de cette personne, s'il y a eu un accident, quelque chose comme ça, et j'ai le témoignage hein, en film d'une personne comme ça qui s'appelle Dianeya, au réveil, il y a un bref moment où cette personne sait tout ce qui existe, a réponse à tout. Et pendant 2-3 jours, on lui posait n'importe quelle question, elle répondait même des questions de science, de physique nucléaire très pointues, ils allaient vérifier à Beaubourg et c'était vrai. Elle savait tout, elle avait accès à une connaissance illimitée, parce que la connaissance existe, elle n'est pas acquise. Dans notre monde, elle est acquise, mais dans le monde réel, elle est, hein, comme Dieu est. Donc, l'intuition, c'est une antenne qui va piocher lorsque je lui permets, hein, parce que je peux aussi résister, fermer le canal. Lorsque je lui permets d'œuvrer, elle va piocher une information dans ce qui est vrai et la ramener. Et tout d'un coup, je peux dire, ah ben oui, c'est ce métier-là qui me convient. C'est ça, je sens fortement, là ça me rend joyeux ou joyeuse d'aller explorer cette voie de professionnel. Ou alors, là ce truc-là, il faut que j'arrête parce que ça me met en conflit sans arrêt. Je sens que c'est fini, je sens que je dois passer à autre chose. Tout d'un coup il y a des évidences, et dans l'intuition il n'y a que des évidences parce que C'est déjà là. Hein. Et c'est ce que dit Ken Wapnick en disant, pour passer à la correction qui se trouve déjà dans notre esprit juste. Hein. Donc, quoi que ce soit qui est notre vraie nature est déjà en nous, et nous avons un voile, et nous pouvons écarter ce voile en étant de plus en plus conscients, ou simplement en demandant de l'aide à notre soi supérieur, hein, la partie de nous qui est dans la réalité. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Quelques directions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? J'écoute mon intuition. Pas pour aujourd'hui. Je dirais pas pour aujourd'hui. Les directions, je les ai données dans l'introduction en partie. Je suis guidé et mon doigt s'est posé sur une rubrique qui commence par Christophe Alain. Christophe Alain, c'est un homme qui a regardé une pastille au plafond, là, comme il y en a chez moi, parce que j'ai fait aussi l'expérience, un petit peu, pendant 4 heures tous les jours, et pendant 6 mois d'affilée. Et il a complètement éveillé son esprit, sa conscience, il est devenu clairvoyant, il a accès aux énergies, aux auras, à beaucoup de choses. Et il a réponse à beaucoup de questions. Et il est très intéressant à écouter, hein, enfin pour ma part. Et il a fait un livre qui s'appelle « Journal de l'éveil d'un éveil du troisième œil, 90 expériences qu'il relate une par une. Et donc, il parle de l'ego, Christophe Alain, parce qu'il sait très bien, décrire l'ego, puisqu'il a eu cette distance avec l'ego. Le livre est là, hein, je vais l'amener. Et le livre est magnifique. Et donc, alors, il dit pour l'ego, impossible de regarder au-delà de sa structure, de la structure de l'ego. Le monde commence et finit en lui. C'est ce que je disais quand je dis, il ne peut pas aimer inconditionnellement, c'est sa structure qui définit son mode de pensée. Hein. Il ne voit rien qui puisse aller au-delà de cette structure. D'où la croyance qu'il est au sommet de l'évolution. Pour l'ego, il n'y a rien qui est au-dessus. C'est pour ça qu'il se compare toujours, hein, compare les autres, moins bien, meilleur. Mais moi, en tant qu'ego, je suis le héros de mon histoire. Hein, je suis toujours au centre. Où que j'aille, ben, je suis encore au centre. Partout où je vais, je suis le héros de l'aventure, personnelle que je vis. C'est quand même fabuleux. Hein. Jamais je pourrais être dans l'esprit de quelqu'un d'autre et voir le monde par les yeux de quelqu'un d'autre. Non, c'est toujours à vie, n'importe où qu'il aille dans le monde, le monde est autour de moi, mais moi je suis le centre. Hein. C'est intéressant. Enfin, c'est la croyance de l'ego. Alors, une autre chose sur l'ego, Christophe Alain dit « L'ego valide sa propre logique ». Ses règles sont la norme et le reste est illogique. Il considère donc être au sommet de l'intelligence. Voilà, donc il est au sommet de l'évolution et au sommet de l'intelligence. Donc évidemment que ne demandons pas à l'ego d'évoluer parce que pour lui il est déjà au sommet. Ne lui demandons pas de grandir en intelligence parce qu'il est déjà au maximum pour lui. Donc ça, c'est assez parlant. Et voilà, je vous livre un témoignage personnel, puisque c'est un groupe de partage à propos de témoignages. Hier, j'ai regardé une pastille pendant 2 heures d'affilée. C'est pas rien. Et au début, je me suis dit, ça va être très difficile de ne pas cligner des yeux. Et j'ai cligné des yeux. Et puis à un moment donné, le clignement s'est arrêté de lui-même. Il y avait un blabla 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 incroyable dans mon esprit, mais comme un vent qui soufflait en permanence, mais en même temps je voyais le vent. C'était très intéressant. J'avais un chrono qui sonnait toutes les demi-heures pour me dire je fais 1 heure ou je fais 2 heures, je saurais quand est-ce que j'ai envie de m'arrêter. Hein. J'étais parti pour faire 1 heure et puis j'ai voulu prolonger. Alors, c'était collé sur le plafond, comme il y a des poutres chez moi. 10 secondes après avoir fixé la pastille, toutes les poutres ont disparu. Alors, c'était incroyable. Et il y avait des illusions d'optique en permanence. Ça devenait noir, ça devenait blanc. Tout d'un coup, il n'y avait que la pastille. Tout d'un coup, la pastille disparaissait. Bref, ça. Et je disais dans un groupe où j'ai proposé aussi cette expérience, je disais en blaguant, qu'est-ce qu'il faut pour éveiller l'humanité? Je disais un paquet de pastilles. C'est une blague, bien sûr, mais alors, je vais commencer à avoir les yeux qui brûlaient un petit peu, parce que je ne clignais pas, et puis ça, ils ont commencé à s'humidifier d'eux-mêmes. Ça a coulé un petit peu, les larmes ont coulé un petit peu. Christophe Alain dit qu'au bout de 3 heures et au bout de 4 heures, il se passe encore d'autres choses. C'est décrit au tout début de son livre. Et puis il y a une interview qui dure 4 ou 5 heures sur Être Plus, qui est éminemment intéressante dans les enregistrements audio du site. Donc j'ai arrêté au bout de 2 heures. La qualité de mon sommeil a été extraordinaire. J'avais pas envie de sortir de mon sommeil tellement c'était profond. Et la qualité de ma méditation de 25 minutes du matin était extraordinaire aussi. Hein. Donc, et je n'ai fait que 2 heures. Lui, il a fait 4 heures tous les jours pendant 6 mois. Et pour lui, c'était pas difficile. Alors, allongé sur le dos, ce qui était aussi très étonnant, c'est que j'étais fatigué en commençant. Je me suis dit, dans cette position, c'est fort probable que je glisse dans le sommeil. Alors, je n'ai jamais glissé dans le sommeil en 2 heures, mais j'ai eu une vingtaine d'étapes de pré-sommeil, ce qui est un changement de perception du sommeil, de la réalité. Comme si, ça bascule un peu, mais je reste conscient. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui m'empêchait d'aller dans le sommeil. Et peut-être ma détermination à rester présent, mais c'était assez impressionnant que je suis certain de ne pas avoir glissé dans le sommeil à aucun moment. Mais ma perception s'est un peu altérée par moments, mais je me rendais compte aussi que je glissais dans une autre perception, comme les ondes alpha, des choses un petit peu spéciales. Hein. Voilà, donc peut-être je renouvellerai, mais je vous invite, ça coûte pas cher, hein, ça coûte le prix d'une pastille, d'une gommette en couleur. Si vous voulez avoir un éveil en rose, vous mettez une gommette rose. Moi j'ai pris une gommette bleue, mais tout ça c'est des blagues. Hein. Ça m'a donné aussi un aperçu de qui je n'étais pas, ces 2 heures de contemplation, parce que beaucoup de commentaires, énormément de commentaires, et en même temps j'étais celui qui écoute les commentaires. Donc on était deux, une partie observatrice et une partie commentatrice, donc c'était très intéressant pour moi. Et je ne luttais pas contre les commentaires. De temps en temps, je me disais, ah oui, la pastille. Je revenais, hop, une autre pensée m'envahissait. Je suivais un peu son cours, et puis je revenais à la pastille. Et puis, voilà, sans juger. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup à redire, hein, parce que c'est une expérience qui est destinée en partie à faire perdre ses repères au mental. Parce que tout d'un coup, je suis figé. Tout d'un coup, il n'y a plus des choses qui bougent et qui changent. Donc mon mental commence à faire bouger les choses de lui-même, alors que moi je suis immobile. Donc le mental a besoin qu'il y ait du mouvement, parce qu'il a peur de mourir. Dans le non-mouvement, où le fait que les choses sont figées, ben, le mental a peur de ne plus exister. Il entretient l'action, il entretient le mouvement. Voilà, je m'arrête là parce que je me sens très très bavard aujourd'hui. Je laisse la parole. Alors c'est possible de me poser une question, lire le titre de la leçon du cours que vous avez tiré dans la corbeille, ou poser une question à propos de son sens. N'importe quelle question sur la non-dualité est pertinente, mais également n'importe quelle difficulté, qu'elle soit petite ou grande, est toujours, d'une manière ou d'une autre, reliée à la non-dualité. Et nous ferons, dans ce groupe, le pont entre « on m'a traité d'idiot et je suis parti dans un délire total » et la non-dualité. Hein. Et comment ça peut être une route aussi pour retrouver notre vérité. Et puis voilà, dans les moments de silence aussi, celui qui est avec nous maintenant dans cette réunion communique également, nous inspire pour intervenir ou rester en silence. J'ai parlé. Alors, je me sens guidé à lire une partie d'un ouvrage qui est en anglais, qui a été donné par Yeshua à un enseignant qui s'appelle Jayem, et l'ouvrage s'appelle « La voie de la maîtrise ». Pour l'instant, c'est seulement en anglais. Et il y a un passage qui m'a beaucoup, beaucoup touché, qui parle de la vie de tous les jours et qui dit « Qu'est-ce qui se passe quand un voleur s'introduit chez moi et repart avec ma chaîne stéréo ? Est-ce que je peux pardonner ? Comment je peux vivre ça sans m'éloigner de ma nature, ma vraie nature ?» Et je trouve que c'était super parce que c'est pas théorique, c'est très concret, c'est très pratique. Alors voilà ce que Yeshua dit à propos de ça. On pourra élaborer hein, si c'est nécessaire. Quand je pardonne le voleur qui est parti avec ma chaîne stéréo, je décrète le contraire de ce que j'ai appris, que rien d'une quelconque valeur ne peut m'être retiré, que le jugement est l'opposé de ce que je veux et me fera ressentir à l'opposé de ce que je veux ressentir. Je décrète mon pouvoir de percevoir différemment, et ainsi je me guéris. Et au début, j'étais déjà beaucoup dans un cours en miracle, quand j'ai entendu ça, et je me disais, si un voleur rentrait chez moi et repartait avec un de mes biens, Je me sentirais démuni sur comment vraiment pardonner, comment ne pas garder cette rancune et aussi ce sentiment de ce qui m'a été volé me manque, c'était à moi. Cette approche-là, tout d'un coup, m'a semblé tellement belle et tellement évidente. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, bien sûr. Rien d'une quelconque valeur ne peut m'être retiré. Et si je crois en la valeur de ma chaîne stéréo comme étant celle de ma nature, et que ça peut m'être retiré, bien sûr, dans ces circonstances-là, je fais dépendre mon bonheur de la valeur que je donne aux choses, ou de la valeur que je donne aux personnes, aux situations, aux événements, peu importe. Et aussi que le jugement est l'opposé de ce que je veux ressentir, de ce que je veux. Dès que je juge, je déclare une bataille, je déclare qu'il y a un gagnant et un perdant, qu'il y a du bien et qu'il y a du mal, je déclare un conflit, je déclare que je suis du bon côté et que l'autre est du mauvais côté, je classe meilleur et moins bon, je fais énormément de choses et surtout, j'augmente le niveau, la perception de séparation qu'il y a entre lui et moi. Si je juge qui que ce soit, alors lui est forcément séparé. C'est plus mon frère, c'est mon ennemi. Hein. Donc le retour à la maison, c'est transformer l'ennemi en frère. Et c'est pas simple quand il s'agit de retirer la valeur que je donne à ma chaîne stéréo, par exemple. Hein. Ou je perds mon portefeuille, est-ce que j'ai un instant de panique ? Est-ce que perdre ma carte d'identité, c'est aussi perdre mon identité d'une certaine manière ? Donc, il y a cette voie de sortie que Yeshua nous rappelle, c'est « je décrète mon pouvoir de percevoir différemment hein, ». À tout moment, j'ai le pouvoir de dire « c'est pas ça que je veux ». Je veux pas m'opposer à ce frère qui est parti avec ma chaîne stéréo. Je veux m'unir à lui. Hein. Je veux être un avec lui et arrêter de croire que cette chaîne, c'est un bien qui fait partie de moi et qui s'il m'est retiré, va me nuire, va provoquer une sensation de manque. Voilà, c'est pareil si je donne de la valeur à l'argent. Chaque fois que je donne de la valeur à quoi que ce soit, et c'est peut-être ça l'enseignement de ce petit passage, alors je décrète que lorsque ça sera retiré, je vivrai le manque. C'est ça, hein. Si je donne de la valeur à une relation amoureuse, le jour où elle va s'arrêter, je vais, si l'autre s'en va, bah, je vais vivre le manque parce que j'ai donné de la valeur. Alors, donner de la valeur, ça ne veut pas dire que la relation n'est pas utile. Hein. Les relations, la chaîne stéréo, peuvent avoir une utilité, mais pas une valeur. Hein. C'est vraiment l'utilité, c'est comment aller de A à B. Hein. C'est comment faire un chemin sur la voie de l'amour véritable. Donc, la chaîne stéréo et l'expérience du voleur a une grande utilité pour me détacher de la valeur, justement. Hein. Peut-être qu'il faudrait qu'on m'en vole plusieurs, d'ailleurs, hein, pour que vraiment j'arrive à me détacher. Ou me faire une autre idée de la valeur de l'argent. Peut-être faudrait que je passe par des expériences de faillite, de presque SDF, pour me dire, mais est-ce que ça change qui je suis? Que je sois avec argent ou sans argent? Est-ce que le bonheur n'est pas là en moi? Malgré ça, voilà. Alors le détachement, c'est pas rien hein, dans notre expérience humaine. Et le contraire, c'est l'attachement. L'attachement, c'est la longueur de la corde hein, qui me lie à mon porte-monnaie, à la relation amoureuse, à ma maison, mon compte en banque, voilà tout ça. Est-ce que je reste libre avec ça? Est-ce que je les considère comme des outils d'évolution? Ou est-ce que je fais dépendre mon bonheur de ces choses? Et assurément, comme ce sont des choses qui sont impermanentes, assurément, un jour, elles cesseront d'être. Et par contre, moi, en tant qu'être de lumière, être divin, Je ne suis pas quoi que ce soit qui est impermanent. Donc la seule chose qui est permanente, c'est l'amour, et je suis composé de ça à 100%, comme Dieu, hein, parce que je suis un fragment, une étincelle de la lumière divine. Donc j'ai essayé moi de me mettre dans la peau de cette personne à qui on a volé cette chaîne stéréo, de me mettre un moment dans ses baskets et de visualiser la scène hein, où il y a eu mon appartement a été fracturé, il est venu, il a pris tout ce qu'il voulait, il est reparti, j'arrive chez moi, je vois la porte ouverte, voilà, je me suis entraîné à me dire allez vas-y, pardonne la vie, qu'est-ce que tu peux faire? C'est intéressant, hein, très très intéressant. Au début, l'ego rue des quatre fers, non, c'est un viol de mon intimité, je vais pas me laisser faire. Voilà, vous connaissez ces voix-là qui s'érigent. Il m'a pas respecté quand il a fait ça, il a manqué de respect. Le respect, c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'ego. Mais on peut utiliser à toutes les sauces hein, le respect. Le respect, ça parle d'une valeur erronée de qui on est, parce que si on parle de qui on est vraiment, alors on est tous absolument identiques, frères et sœurs, composés de la même matière, la même nature. C'est pas de la matière, hein, mais voilà, du même mortier. Donc, alors, pourquoi il a ressenti, moi j'ai commencé à réfléchir comme ça. Pourquoi il a ressenti le besoin de venir me déposséder de quelque chose qui m'appartenait? Je mets des guillemets autour de chaque truc égotique. Hein. Pourquoi? Parce que forcément, cet homme-là, ou ce voleur, ou cette voleuse, peu importe, est connecté avec le sentiment de manquer. Parce que s'il n'avait pas le sentiment de manquer, il n'aurait pas le besoin de voler. Il n'aurait pas besoin de prendre quelque chose pour dire j'ai plus, parce que j'ai déjà tout. Donc c'est déjà ça. Et si moi je réagis difficilement, j'ai aussi le sentiment de manquer. Donc c'est déjà un premier pas intéressant. Et quand j'arrive à le voir différemment, c'est-à-dire à voir en lui un être qui, comme moi, fait une expérience dans la dualité, mais qui est un être divin, qui brille par sa lumière, qui est 100% amour inconditionnel, même s'il joue des rôles de voleur dans ce monde, entre autres. Alors, si je me concentre sur l'être divin et je passe par-dessus l'être humain, ouf, je peux déjà sourire, je peux déjà reconnaître sa lumière, et pour moi, reconnaître sa lumière, ça m'aide à pardonner. Je dis, il est en train de me jouer un bon tour pour voir si je quitte l'amour ou si je reste dans l'amour. Il est en train de me faire un sacré test. Allez, vas-y, avis. Alors, t'as le choix maintenant. Comment tu réponds? Est-ce que tu tombes dans l'embuscade qui est tendue à mon ego, et est-ce que tu renforces le sentiment de séparation entre toi et lui en condamnant, en jugeant et en décrétant que lui et moi sommes de plus en plus séparés, encore plus que quand je le connaissais pas. Maintenant, il est mon ennemi. C'est-à-dire qu'avant, c'était un inconnu, et maintenant, c'est un ennemi. Et je dois obtenir vengeance, et de la rancune. Donc, il y a plein d'émotions comme ça qui viennent nous séparer davantage. Puisque tout ça, ça abaisse ma conscience et mes vibrations. Ou est-ce que je choisis l'amour en disant ça ne change pas une virgule de qui je suis, qu'il soit maintenant avec la chaîne stéréo qui était chez moi. Maintenant, elle est chez lui, ça ne change pas une virgule de qui je suis. Je peux l'aimer autant qu'avant. Je peux reconnaître qu'il a joué un rôle et que ça ne s'est pas vraiment passé. C'est ça le pardon tel que c'est cité dans la question « Qu'est-ce que le pardon hein, ?» dans un cours en miracle. Ce que tu crois que ton frère t'avait fait ne s'est pas réellement passé. Dans le monde absolu, hein, on parle bien du niveau de l'amour absolu, hein, pas le monde relatif. Dans le monde relatif, je crois que ça s'est passé. Et je dis bien « je crois ». Mon esprit est tellement puissant qu'il peut générer toutes les circonstances pour que ça soit réellement tangible et, je dirais même, vérifiable que ça s'est passé. Mais tout ça, c'est un scénario soigneusement imaginé, avec un pouvoir que nous ne connaissons pas en ce monde. Dans le pouvoir de mon être divin, il y a « tout est possible ». Donc, je veux créer la terre, le soleil, les étoiles, abracadabra, hein. En vérité, c'est comme ça. Abracadabra, c'est la pensée magique, c'est la pensée qui peut tout. Je suis cette pensée, je suis Dieu. Hein. Donc, encore une galaxie, allez, tiens, encore une galaxie. Tiens, là, ça manque un peu de couleur, je vais mettre du bleu. Je suis ça, hein. Donc je veux créer les expériences qui me servent à revenir à l'amour. Allez hop, je mets le décor en place, la maison, la chaîne, le voleur, moi dans mon ego, mon attachement aux choses. Allez, acte 1, scène 1, on joue, hein, qui commence? Le voleur, moi je veux commencer, d'accord, vas-y. Ben, c'est normal, c'est lui qui a l'action. Donc si j'arrive à le voir comme ça, ça peut vraiment être comique déjà, hein. Parce que j'arrête d'y croire aussi fort. Je n'y crois plus dur comme fer. Mais je vois la pièce de théâtre qui se joue, que j'ai moi-même orchestrée. Qui c'est? C'est celui qui m'a envoyé. Hein. Il m'a envoyé quoi? Il m'a envoyé jouer mon rôle. Hein. Mon esprit pur a dit, vas-y, maintenant, tu prends le corps d'avis, tu prends le nom d'avis, tu prends le nom de famille. Tu vois, tu as tel père, tu as telle mère. On pose toutes les conditions, toutes les circonstances, et puis vas-y, commence à vivre. Enfin, en apparence, bien sûr. Vis tes déconvenues, vis tes extases, vas-y, et puis vois en quoi ça t'aide, en quoi tes expériences sont imbibées d'amour, ou tes expériences sont rempli de manque, de souffrance, d'attachement, d'emprisonnement à des valeurs fausses, etc. Donc, partir de la rancune, de la colère, et arriver à rire de la situation, tiens, j'ai plus ma chaîne stéréo, mais en vérité, je l'ai programmé, ça faisait partie de mon scénario, donc si je l'avais pas programmé, ça ne serait pas passé, donc ça doit m'aider, donc rions un bon coup. Le voleur et moi, et on rit tous les deux de cette bonne farce qu'on s'est jouée ensemble. et à laquelle on a cru tous les deux. Lui, il a cru qu'il manquait de quelque chose, et il peut se pardonner pour avoir cru au manque. Moi, j'ai cru que quelque chose pouvait m'être retiré, ce qui est la même chose, et je peux me pardonner pour avoir cru à ça, et avoir cru que lui était moins bon que moi parce qu'il me volait, et que moi j'étais meilleur que lui parce que j'avais la chaîne stéréo et lui il l'avait pas. C'est pas rien, hein. Toute cette, ce petit fait qui peut arriver à chacun de nous n'importe quand, je me fais escroquer sur Internet de 30 euros. Est-ce que j'entame des poursuites judiciaires? Est-ce que il faut que justice soit faite? Ou est-ce que je me rappelle qui a programmé tout ça? Alors, là où c'est subtil, c'est que ça ne demande pas que je cautionne les choses. Hein. Je ne cautionne pas la souffrance, je ne cautionne pas les crimes, je ne cautionne pas les actes inconscients, parce que mon but, c'est d'être de plus en plus conscient. Donc, je ne cautionne pas tout ce qui est sous-jacent, tous les buts qui sont des chemins individuels de retour à l'amour. Si un avion s'écrase avec 700 personnes et dedans il y a des bébés qui ont un mois ou deux, voilà, je suis pas en train de dire c'est pas triste, je suis pas en train de dire il n'y a pas d'émotion. Non, je ne cautionne pas le fait. Mais je dis aussi que ce fait-là, même si je n'en sais pas grand-chose, a une utilité pour faire évoluer les consciences et que les 700 âmes qui sont dans cet avion ont dit oui pour venir sur Terre et partir à ce moment précis dans le but de faire évoluer le reste de l'humanité. Quand un bouddhiste s'immole par le feu, voilà, c'est aussi un accord d'âme qui dit ma vie aura duré ça et je suis venu spécifiquement pour ce but-là. Et là, nous pouvons nous détendre. C'est une pièce de théâtre où il n'y a pas, où les acteurs semblent vivre et mourir, mais personne ne meurt vraiment et personne ne naît vraiment. Ce ne sont que des volutes de pensée où je dis, j'aimerais bien que les choses se passent comme ça et les choses se passent comme ça. Alors, dans le scénario, il y a aussi l'avion s'écrase. Dans le scénario, il y a aussi la souffrance, mais dans le scénario, il y a aussi, je vis l'amour à un point où je n'ai jamais vécu avant. Les conditions pour aimer se lèvent progressivement dans ma vie. Il y a tout ça. Hein. Tout ça en tant que quoi? En tant que outil. Hein. Et notre vie, la terre, le temps, l'espace, les gens, les objets, sont des outils que j'ai placés à ma disposition pour évoluer. Hein. Et je peux me saisir d'un outil et dire... dans cette situation-là, cet outil-là, qu'est l'argent, va me servir à évoluer en utilisant l'argent pour une œuvre philanthropique. Je vais élever mes vibrations au moyen de l'argent. Ou je vais utiliser l'argent dans un but pour rabaisser la conscience. Je vais créer un réseau de drogue et de prostitution en alimentant avec cet argent qui est issu lui-même de fausses factures. Voilà, tout ça avec des vibrations très basses. Et c'est dans les deux cas un outil. Hein. Parce que les expériences où apparemment je m'éloigne de l'amour ont aussi pour but que je m'en rapproche, par contraste. Donc elles sont aussi utiles. Donc nous apprenons à ne pas juger. Hein. S'il y a bien une chose... Je pourrais dire peut-être la plus importante de ma vie, l'enseignement le plus important de ma vie, c'est renoncer. Et le verbe renoncer est important. Renoncer au jugement. Parce que l'ego ne veut pas renoncer. L'ego s'accroche au jugement. L'ego a un désir irrépressible de garder cet état de victime. Je suis victime de celui qui est parti avec ma chaîne stéréo. Si je suis plus victime, il n'y a plus d'ego. Donc l'ego s'accroche à l'état de victime. Comme l'ego est la croyance d'être limité, dès que je suis l'inverse de victime, c'est-à-dire responsable de la situation, je prends la responsabilité de ma nature divine et puis je décrète qu'il ne s'est rien passé. L'ego n'a plus aucun rôle à jouer. Et l'ego commence à la mettre en sourdine. Bien sûr, si je pardonne, l'ego n'a rien à dire. Bien sûr, il va se révolter contre le pardon, contre le pardon véritable. Mais l'ego, la puissance de la voix de l'ego dépend de l'intensité de la croyance que j'ai en l'ego. Donc plus je crois que je suis séparé, et plus l'ego crie fort. Et quand je commence à rire des situations, avant je trébuchais, je renversais un truc, je disais, oh là là, mais quel... trois petites lettres que je ne cite plus. Et je m'insultais en et qu'est-ce que ça voulait dire? Mais c'est vraiment nul ce que tu as fait. Ça veut dire tu ne vaux rien. Je m'auto-sabote, je m'auto-juge. Et aujourd'hui, je me marre quand quelque chose m'échappe des mains, je me marre, hein, parce que ça me surprend. Ça me surprend et je suis dans cet instant-là où je m'attendais pas à ce que ça tombe par terre ou que le verre de jus d'orange se renverse. Je nettoie et puis je reprends des oranges et puis je refais un jus d'orange. Et donc il y a un endroit, un moment où je me suis dit ce qui se passe là n'a pas d'importance réelle. Que je trébuche, que je renverse le verre ou qu'on m'escroque de 1 000 euros ou de 10 000, ça n'a pas d'importance réelle, dans le sens, ça ne change pas ma nature divine. Hein. Et ça nécessite que je me rappelle qui je suis tout le temps, enfin, ou que je me donne des rappels réguliers quand j'oublie, quand je me laisse emporter par les sirènes de l'ego. L'ego est... Avi, rappelle-toi, t'es un individu séparé des autres... crois-moi, fais-moi confiance. Les autres sont des ennemis. Attaque. Voilà, c'est des petites voix comme une sirène qui veulent me convaincre d'autre chose que de ce qui est vrai. Et encore une fois, ça n'a rien de mal. Alors, quand j'ai commencé à rire des situations, j'ai en premier une distance. L'humour est vraiment important parce que tous les maîtres spirituels sont spirituels. En humour. Pourquoi? Parce qu'il n'accorde pas d'importance. Osho raconte plein de blagues. Ses bouquins sont truffés de blagues. Et puis tous les maîtres dans les interviews font rire tout le monde. Hein. Dans les darshan, ça rigole à fond la caisse. Pourquoi? Parce que dans l'humour, il y a une distance avec les choses. Ça veut dire que rien n'est vraiment sérieux. Hein. Même une chose que je crois sérieuse comme la mort n'est pas sérieuse. Hein. Et les maîtres peuvent rire de la mort ou peuvent rire de tout ce qui est humain. Donc si je peux rire de ma maladresse, alors la maladresse n'a pas d'importance. Et j'enlève à l'ego sa nourriture qui dit « c'est terrible ce qui t'arrive à vie, hein. C'est le drame ». L'ego a un fonds de commerce qui dit encore du drame et encore du drame pour que je continue d'exister, hein, dans le drame. Donc, quand je dis, ben non, c'est pas terrible du tout, ah bon? L'ego, je vais couper l'herbe sous le pied. Je lui enlève le pain de la bouche. Et donc, d'une certaine manière, comme il a plus de nourriture qui est due à mes jugements, sa voix commence à rétrécir, hein, sa voix commence à se calmer parce que, en vérité, c'est moi qui l'alimente, hein, et je peux couper les vivres, hein. Moi, je vois ça très clairement, hein, c'est pas juste de la théorie, hein. Et la première façon de lui couper les vivres, c'est de le voir fonctionner en riant des situations. Ah ouais, tu croyais que c'était un drame? Bah, désolé, non, c'est pas un drame. C'est pas un drame. C'est la preuve, je me marre comme c'est pas possible. Mais il y a 10 ans, c'était un drame. Donc, il y a un chemin qui dit, cela n'a pas d'importance. Pour moi, c'est un mantra. C'est vraiment, et même quand je crois que ça en a, je me dis, cela n'a pas d'importance pour me rappeler qu'en effet, ça n'en a pas. Parce que je change de niveau de perception quand je dis, cela n'a pas d'importance, quand mon ego dit, ça en a beaucoup, hein. J'ai vécu des choses qui, apparemment, avaient beaucoup d'importance, avaient énormément d'importance. Dans ces moments-là, je me suis dit, Avi, rappelle-toi que ça n'a pas de valeur, que ce que tu vis là, c'est une expérience et c'est tout. Et le sourire est revenu. Et quand le sourire revient, l'ego n'est pas, je ne suis pas plongé dedans. Il est à côté de moi, hein, je peux le voir. C'est celui qui me dit, mais si, Avi, mais si, c'est important, allez, fais un effort. Rappelle-toi que c'est un drame. Et quand je vois l'ego, Je suis sauvé. Pourquoi je suis sauvé? Parce que je suis pas l'ego. Si je le vois, je suis pas lui. Et si je suis pas lui, je peux m'identifier à ce qui observe l'ego. Et plus je m'identifie à mon être de conscience qui observe l'ego, et moins il a de l'ego aussi perd de sa valeur, de son importance. Et ce moment-là est crucial dans la vie pour moi. Le moment où je vois l'ego fonctionner, je suis aussi capable d'arrêter son fonctionnement. Parce que comme c'est moi qui l'alimente, je peux à tout moment dire « Quick, j'arrête le crédit là. J'arrête le crédit, je ne paye pas la mensualité. C'est une mensualité à vie, c'est le cas de le dire. Je paye tous les mois mon crédit de drame à l'ego. Hein, et puis à un moment donné, je dis « Oh, ça commence à bien faire, hein, ça me rend pas heureux. Quick, je ferme le robinet du drame. » Ego, il dit, t'es sûr? Je dis oui, c'est sûr. Alors, c'est ça que, ça n'a aucune importance. Et c'est ça que je voulais dire quand je dis, ça peut être une grande révélation que de décider de renoncer au jugement. Mais renoncer, ça implique que c'est consciemment. Je peux pas renoncer dans l'ego au jugement. C'est l'un ou l'autre, hein. Je choisis mon camp, l'esprit juste ou l'esprit faux. Donc, renoncer consciemment, c'est repérer le moment où le jugement arrive, repérer le moment où l'attachement pointe, mais avant qu'il soit là, repérer le moment où la rancune voudrait s'exprimer, repérer le moment où il y a du ressentiment et choisir autre chose, hein. Ou repérer le moment où simplement je juge une émission de télévision parce qu'elle prend parti, un homme politique parce qu'il pense pas comme moi. Voilà. Qu'est-ce que tu choisis à vie, hein? Est-ce que tu choisis le jugement ou est-ce que tu choisis d'être heureux? Et c'est ça la vraie alternative. Parce que le jugement me rend forcément malheureux. Pourquoi? Parce que le jugement est un combat. Il y a celui qui a mal fait et il y a moi qui ai bien fait. Et je suis toujours du côté du « j'ai bien fait ». Je juge que ce que j'ai bien fait et je juge que l'autre devrait penser comme moi, hein, au niveau de la politique, par exemple. Donc, ça peut commencer par des choses très simples en disant « tu penses ça et moi je pense ça, ben, tu as le droit de penser ça. Tu as le droit. Moi je pense autre chose, mais c'est ok. Tu es mon frère quand même. Ça fait pas de toi quelqu'un à combattre, le fait que moi, je vis ça dans ma famille. J'ai des proches qui ont des points de vue, très éloignés des miens, et qui essayent un petit peu comme du prosélytisme à me convaincre que leur point de vue c'est le bon point de vue. Et moi, j'ai la phrase qui tue. Enfin, c'est une façon de parler parce que je ne tue personne. Et je dis. Ok, t'as le droit de penser ça, d'accord. Moi, je pense autre chose, mais moi, t'as 100% le droit de penser ça. Ça s'arrête tout de suite. Ça s'arrête parce que je suis d'accord avec lui. Et ce qu'il voulait, c'est que je sois d'accord avec lui, en vérité. C'est pas que je pense comme lui, mais je dis oui, t'as raison. Mais je dis oui, t'as raison, mais sur une autre chose. Tu es libre. Tu es foncièrement libre de penser ça ou autre chose. Ça fait pas de toi. Ça enlève rien à ta qualité divine qui a pris ce masque, qui a pris qui s'est travesti momentanément en quelqu'un qui pense autre chose que moi. Donc, renoncer au jugement, c'est repérer le petit tourbillon qui est déclenché par le préjugement et qui commence à m'entraîner vers la voie de la condamnation et me dire « Stop !» C'est pas ça qui me rend heureux. Je renonce. Je renonce à ce mécanisme. Je peux renoncer que si je suis à distance. Si je suis dedans, c'est un tourbillon qui m'entraîne. C'est un cyclone. Je peux pas m'échapper du cyclone parce qu'il est puissant. Hein. Si je suis dans la colère, c'est un cyclone. Si je suis dans la rancune, ou dans le sentiment d'injustice ou de victime, mais vraiment plongé, c'est un cyclone. Donc, j'ai besoin de prendre du recul. Hein. C'est un processus. Moi, ça a été un processus dans ma vie. Hein. Ça n'a pas été immédiat. Donc, je commence par des petites choses sans beaucoup de valeur, qui ont quand même une valeur, mais c'est pas des choses dramatiques, hein, c'est pas des choses très importantes que je considérais comme très importantes. Voilà, le coup du jus d'orange qui tombe par terre, c'est excellent parce que ça a pas beaucoup de portée, mais je peux me juger ou je peux rester tranquille, hein. Bon, ben, il faut nettoyer. Il faut refaire un jus d'orange. Bon, d'accord, je refais un jus d'orange. Ça va coûter les 3 oranges. Ça va coûter 3 oranges. Bon, je renonce au jugement qui dit t'es un super maladroit. T'aurais pu faire attention. Je renonce à ça. Et au nom de quoi? De ce qu'on appelle l'amour propre, de ce qu'on appelle l'estime, et ce que j'appelle l'amour de tout court, inconditionnel. Je suis digne d'amour autant quand je fais une œuvre philanthropique, je donne 1 000 euros à une organisation caritative, que quand je me dis, bah, c'est pas grave, t'as renversé un jus d'orange, c'est pas grave, ça arrive, refais-en un, ou nettoie, ou rigole de ce truc-là, parce qu'en vérité, c'est très comique. Il y a des choses maintenant, quand je manque de me casser la figure, je m'écroule de rire, parce que c'est tellement surprenant que ça m'entraîne le rire. Donc, repérer les drames. Hein. Pour moi, repérer les petits drames, les grands drames, les moyens drames, et se dire, est-ce que je pourrais renoncer à ces drames-là? Est-ce que je pourrais les voir autrement? Hein. C'est ça, je décrète mon pouvoir de percevoir différemment Yeshua. À tout moment, dans une situation, je peux décider d'être heureux plutôt que d'avoir raison. Et il n'y a que l'ego qui va avoir raison. Et être heureux, c'est une décision de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire de mon esprit juste, celui qui me mène vers ma réalisation. Réaliser qui je suis, ça se prend à 2 niveaux. Hein. Tout d'un coup, je réalise que je ne suis pas celui que je croyais. Hein. Et c'est instantané, ça. Et puis, un être réalisé, ça veut dire qu'il a abouti. Et ça demande... apparemment du temps. Hein. Donc on n'est pas, on est divin et pas pour rien parce qu'on a créé le temps pour faire que ce que les choses immédiates, les choses qui se produisent en un instant semblent nécessiter du temps. Parce que de passer de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel, ça ne demande aucun temps. Ça peut se faire maintenant. Et en vérité, c'est déjà là maintenant. Hein, dans la réalité absolue. Et donc, il y a cette notion de « je pourrais basculer ». C'est ce qu'on appelle l'éveil. Hein. L'éveil peut survenir n'importe quand. Certains disent « peut survenir entre deux pensées ». Voilà, j'ai lu ça, moi je trouve que c'est surprenant, mais pourquoi pas. « Peut survenir entre deux pensées, m'éveiller à ma nature ». Mais nous sommes des êtres divins et nous avons dit que ça serait plus rigolo si les choses étaient étalées dans le temps. Et donc on a inventé le temps pour créer des processus de réveil. Alors qu'on pourrait se réveiller instantanément, on va se faire des expériences qui vont nous apporter 1% d'éveil. Tiens là, un gros poisson, là j'ai eu 10% d'un coup. Tiens, un divorce, 25%. Et puis des régressions aussi, pareil, des niveaux de conscience qui montent, qui baissent, mais généralement avec une courbe ascendante, et puis ça peut être aussi une spirale ascendante, évolutive, hein, même s'il y a des petites rechutes de temps en temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a un paradoxe apparent, tout est déjà fait, tout est déjà réalisé, dans le monde absolu, il n'y a que Dieu, on baigne dans une félicité... les communications par canal de channeling, hein, les êtres de lumière qui nous enseignent des choses avec un petit peu d'ego de celui qui reçoit, bon, enfin, toujours un peu filtré, mais c'est pas très grave. Le cœur de l'enseignement est souvent là. Ils nous disent que c'est quoi la félicité qui se trouve dans le monde des anges, le monde où il n'y a pas de matière, qui ne connaît pas le bien et le mal. Ils nous disent, c'est impossible à décrire, mais on va vous donner un ordre d'idée. Imaginez un orgasme multiplié par 100 et en permanence. Alors déjà, c'est pour ramener à des choses humaines. Hein. mais en vérité, c'est pas descriptible. Donc, le monde de Dieu, c'est un monde où la joie est pure, où l'amour est sans limite et qui s'étend en permanence. Et la joie du monde divin, c'est que ça crée en permanence davantage d'amour. Hein, et ce n'est jamais figé. L'amour s'étend et notre rôle en tant qu'humain, c'est de participer à cette œuvre, avec la dualité également, hein, de créer des expériences qui n'avaient jamais été tentées avant, de s'éloigner de l'amour pour ensuite aller l'amplifier par rebond, je dirais, avec mes quelques mots qui essayent d'approcher ce qui est impalpable. Hein, mais comme si on était dans l'amour, on était attaché à un élastique dans l'amour, et puis on tire, on semble sortir de l'amour, je dis bien ensemble, et on tire encore, on expérimente la noirceur absolue, mais plus on s'éloigne, plus l'élastique est tendu, et à la fin, on lâche d'un coup. Hein. C'est l'image que je trouve pour décrire ce contraste, mais cet appel intangible à retourner à l'amour qui est vraiment plus fort que nous, qui fait que au sein de la noirceur la plus grande, de l'expérience la plus terrible de notre vie, il y a un appel à se réveiller qui ne s'éteint pas malgré tout, qui est encore là, qui nous guide vers la sortie du labyrinthe, hein, du puzzle. Voilà, ce n'est pas une conférence, donc à tout moment, si vous avez quelque chose à voulez intervenir, levez juste la main. Pour donner vos propres expériences ou points de vue. Vous voyez, on est parti de la chaîne stéréo. Hein, la chaîne stéréo. Béni soit la chaîne stéréo qu'on m'a volée. D'une certaine manière, je peux remercier les situations difficiles. En ce sens qu'elles me permettent de prendre de la distance et de trouver un contraste avec l'amour et puis de décréter ce que je veux. Hein, je décrète ce que je veux, que ce que je veux, ce n'est pas une abondance de biens matériels, et que quand on m'enlève un bien matériel, en vérité, on m'a rien enlevé. Il n'y a rien de moi, pas une virgule de mon état qui est parti. Et ce que je veux ressentir, c'est pas cet état de manque que mon ego voudrait ressentir quand on me vole quelque chose.
D'abord, merci Avi pour cette super démonstration. Moi, je voudrais vous partager qu'il m'arrive d'avoir des idées qui sont obsédantes. C'est pas forcément dans la réalité, c'est plutôt dans mon désir de ne pas vouloir lâcher un certain nombre d'idées que j'entretiens. Et j'ai beau savoir que je dois arrêter de fantasmer de cette manière-là, il y a une partie de moi qui se refuse, une partie de mon ego qui se refuse à lâcher une espèce de rêve que j'entretiens, comme si il y avait une partie de moi qui me disait qu'il fallait que je comprenne qu'est-ce que je veux dire à travers ce rêve, qu'est-ce que j'y mets réellement, parce que c'est quelque chose d'assez obsédant. J'ai rencontré quelqu'un, cette personne, en fait, on s'est séparés très très rapidement, et cette personne revient, et donc elle avait quelque chose à m'apprendre de moi-même, à m'apprendre sur mon comportement et peut-être sur ma façon aussi de rejeter les autres. Parce que dans un premier temps, c'est moi qui l'ai rejeté, et après j'ai eu envie de revenir vers cette personne, et elle-même, elle n'était plus d'accord pour revenir vers moi. C'était aussi son histoire, c'était bon. Mais en même temps, c'est quelque chose qui m'obsède, comme si c'était... Voilà, et je me comprends pas moi-même, parce que j'ai l'impression qu'en même temps ça m'apporte quelque chose, ça doit nourrir ma possibilité d'évoluer, donc de me comprendre moi-même à travers cette expérience. Et j'ai beau essayer de mettre du recul pour regarder à l'extérieur cette expérience, je me la fais revivre tout le temps. Si tu peux essayer de me donner un éclairage, ça m'arrangerait, pour lâcher justement vraiment cette fois-ci.
Et puis n'importe qui d'autre ici peut aussi donner son éclairage, puisque il n'y a pas une personne, hein, qui est en charge, mais on est tous en charge. Alors il y a plusieurs choses qui me viennent. Hein, certaines expériences de vie je vais dire, quand je regarde certaines expériences de ma vie, je m'aperçois qu'il y a un certain équilibre des situations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais en relation amoureuse et j'ai été le bourreau. C'est-à-dire celui qui rejette l'autre, comme tu dis, qui part et qui laisse l'autre dans le désarroi, par exemple. Et je remarque aussi qu'avec cette même personne, j'ai eu à un autre moment de ma vie la situation inverse, comme pour équilibrer. Hein, on peut parler de karma, mais c'est l'équilibre des énergies. Et je me suis trouvé celui qui a été rejeté, celui qui a été victime, qui s'est senti victime. Et je me suis dit, bon, j'ai vécu ça et j'ai vécu l'inverse. La situation est bouclée. Et bouclée, ça veut dire que j'ai connu le pile et j'ai connu le face. Et donc, elle m'a donné les enseignements, cette personne. Cette situation m'a donné les enseignements, donc j'ai plus besoin de la retrouver dans ma vie. En vérité, c'est pas moi qui volontairement veux la retrouver ou ne veux pas la retrouver. Elle ne m'est plus proposée parce qu'elle a terminé son utilité, cette situation. Alors on se rappelle que les choses n'ont pas de valeur. Les relations amoureuses n'ont pas de valeur, mais elles ont une utilité. Hein, ce sont des outils. Alors, quand il y a des situations récurrentes, pour moi le message c'est j'ai pas appris la leçon. Et donc je redouble, je reviens dans la même classe. Et quand la leçon est apprise, je passe à la classe supérieure. Et donc l'univers ne me représente plus la même situation parce que j'ai appris. Et comme ça servait d'enseignement, il n'y a plus besoin que je refasse la même expérience. Donc, une situation qui se répète, par exemple dans une relation amoureuse avec la même personne ou avec des personnes différentes, je joue toujours le même rôle, où je rencontre toujours l'abandon, par exemple, l'autre me fait contacter toujours l'abandon, et puis je quitte parce que ça m'est inconfortable, je retrouve une autre personne, et c'est hop, rebelote, et encore troisième rebelote, quatrième rebelote, j'ai pas appris ma leçon. Par rapport à l'abandon, j'ai pas appris que c'est pas en changeant de partenaire que je change ce qui souffre en moi. C'est en regardant avec humilité et en traitant et en m'occupant de ce qui souffre plutôt que de l'autre. En partie, hein, donc il n'y a pas forcément seulement ça. Donc, quand tu dis il y a une partie de mon ego qui dit ça, moi je dirais qu'il y a une partie de ton esprit. Parce que tout ce qui est volonté, tout ce qui est je veux, c'est 100% ego. Hein. Mais obsédant, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, et pas seulement l'ego. Hein. Il peut y avoir des messages intuitifs qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et c'est récurrent et ça peut sembler obsédant, en effet. Donc les messages intuitifs sont des messages vrais de l'esprit pur qui me dit continue à apprendre ta leçon, hein, t'as pas terminé. Alors donc je peux pas donner de réponse, il y a pas forcément de réponse une à donner à cette situation parce que je suis pas en position de la donner, hein, tout simplement. Ce qui est important, c'est peut-être de voir quand t'as le désir de renouer avec cette personne, est-ce que ça part d'un endroit égotique qui par nature est contracté, par nature veut les choses d'une manière tendue, c'est-à-dire que c'est un objectif incontournable, si ça ne se réalise pas, ça te met dans un état d'agacement ou de contraction ou de peur ou voilà. Qui est à la source de cette pensée? Est-ce que c'est une pensée d'ego qui vient d'un attachement à la personne, et l'attachement ça parle forcément d'un manque de liberté et qui veut retrouver de l'attachement, hein, qui s'attache à l'attachement, c'est possible. Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas, qui est plutôt libre, qui dit va là-bas, va là-bas, va là-bas, comme une voix en fond, filigrane, qui me dit t'as encore quelque chose à faire là-bas. Et c'est plutôt libre, il n'y a pas cette notion de il faut absolument. c'est une proposition. C'est pour ça que ça peut sembler obsédant, parce que la proposition peut être répétée. C'est jamais les voix qui sont vraies de notre esprit juste ne nous forcent jamais à quoi que ce soit, puisqu'on a le libre arbitre. Et donc, mais elles peuvent nous répéter les choses pour que nous les écoutions vraiment. Mais à aucun moment je vais me sentir obligé de. Donc il y a cette notion de libre arbitre que l'ego n'a pas. L'ego dit tu es obligé de le faire, c'est son message sous-jacent. Quand il dit je veux, c'est une volonté ferme et puissante. Donc il y a ce que moi j'appelle être guidé à faire, et il y a ce que je veux absolument faire, et qui sont deux énergies différentes. L'une est manipulée par l'ego, et la façon simple pour moi de les différencier, c'est est-ce que je peux dire non à cette proposition et rester léger. Si je peux rester léger, c'est une proposition libre. Si je dis non et qu'il y a une contrariété et qu'il y a un manque de liberté ou une peur ou une contraction, alors il y a beaucoup de chances que ce soit l'ego qui est contrarié dans sa volonté, qui peut être un objectif, comme si incontournable. Il faut absolument passer par ça.
Merci à vous tous pour votre générosité. En fait, je voulais faire part de nombreux moments de coïncidence qui sont pour moi très très joyeux, parce que j'ai la sensation justement que le temps et l'espace n'existent pas. Et l'un des derniers, c'était il y a pas si longtemps, j'ai pris l'avion pour revenir en France. J'allais chercher mon ticket de bord, enfin je me rappelle. Et là, j'ai quelqu'un qui m'a tapoté l'épaule et qui me dit Rosa. Et je dis, ah oui, c'est oui. Et c'était une amie d'enfance que j'avais pas vue depuis 10 ans. Elle me dit c'est étonnant. Parce que on a parlé de toi ce matin. Et il est vrai que j'avais pas du tout envisagé de la rencontrer, mais voilà, c'était un très très beau moment de coïncidence et de voilà où le temps s'arrête. D'un coup, j'étais plus du tout dans un aéroport. On se regardait dans les yeux comme si finalement nous faisions qu'un quoi dans cet espace-temps et voilà. Et j'ai eu un autre moment comme ça du même style mais différent. J'étais à Valencia et j'ai remarqué des grandes toiles photographiques sur les murs. Donc bon, évidemment ça m'a interpellée, c'était artistique et c'était beau. Bon, ben voilà, c'était impossible de ne pas le voir parce que c'était une grande dimension. Et puis j'avais rendez-vous avec une amie, on va manger au restaurant. Elle m'emmène dans un restaurant qu'elle me faisait découvrir et en fait, j'étais déjà allée dans ce restaurant 20 ans auparavant, donc c'était encore une surprise. Et ensuite, une autre amie se joint à nous, elle nous dit on va aller boire un café avec quelqu'un d'autre qui nous attend dans un autre endroit de la ville. Et là, j'ai rencontré le photographe des grandes tentures photographiques. Donc, j'ai vraiment eu la sensation d'être à nouveau dans des moments, enfin, qui ont duré, où le temps s'arrête. Quoi. J'ai l'impression d'être dans une autre. Sur une autre planète, dans une autre galaxie, et vraiment en lien avec les gens avec lesquels je suis. Voilà, c'est des moments de profond bonheur.
Oui, moi je voulais dire quelque chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, enfin, en réponse. C'est que ce que je peux vivre, moi, souvent, c'est qu'en fait, il y a une interaction entre, entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il peut y avoir une intuition, enfin, par rapport à cette histoire d'obsédant. Il peut y avoir moi, je peux vivre ça. C'est-à-dire qu'il y a une intuition, donc très forte. Et cette intuition, c'est mon âme qui me parle, qui sait ce que je dois faire. Et ça me le fait très souvent. Donc, et puis, il y a un décalage de temps, de famille, avec mon ego, qui est mon monde, l'ego, enfin le monde d'ici. Et par contre, l'ego, du coup, en réponse à l'intuition de l'âme, peut être dans une frustration, dans une souffrance. Alors, je vis de moins en moins dans la souffrance, mais plus dans la frustration. Aujourd'hui, c'est plus la frustration. Parce qu'il y a un décalage énorme entre ce que je vis et ce que je sais que je dois vivre. Et je sais que quand je dis je sais ce que je dois vivre, c'est pas mon ego. C'est absolument pas mon ego. C'est vraiment mon âme qui a cette intuition très forte. Et bon, ça vraiment, je sais que ça vient d'ailleurs. Et mais du coup, ça crée quelque chose qui est discordant et qui peut faire que ça peut devenir obsédant, qui peut faire que l'ego peut y mettre des choses de la frustration et bon je pensais à ça aussi quand tu parlais tout à l'heure, enfin moi ça me renvoyait à des situations notamment professionnelles par exemple en ce moment où j'ai fait énormément d'expériences de ce type-là, de perception extrasensorielle, etc., d'énergie très très forte. Et aujourd'hui, j'en fais strictement rien. Et je sais que ma mission, c'est d'en faire quelque chose. Mais apparemment, c'est pas prêt. Et donc, mon ego, enfin, en termes d'ego de tous les jours, dans ma vie, je vis une frustration de rien pour envers, c'est pas tout à fait vrai, parce que j'en fais quand même quelque chose professionnellement, mais très peu. Par rapport à ce que, en tout cas, mon ego imagine, ce qui me semble, pas que l'ego imagine, hein, mais ce qui me semble aussi au niveau vraiment au niveau de l'intuition, ce que je sens là où je dois aller. Et que, voilà, et que ben, dans ce décalage-là, effectivement, ça peut des fois toucher à quelque chose qui est de l'ordre de pas de l'obsession, mais pas très très loin quand même, quoi. Voilà. Donc je vais répondre à ça.
Pour revenir à l'obsession, je me dis, enfin ça m'arrive aussi de voir des obsessions, je dirais plutôt malheureusement, parce que elle m'empêche de vivre autre chose, donc elle m'oriente à chaque fois sur cette idée obsédante. Alors est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce que je dois régler cette situation au plus vite, auquel cas vraiment je m'intéresse à cette situation de manière à ne plus la vivre comme un empêchement, comme un blocage ou comme une souffrance, et de me dire bon, c'est peut-être une tendance que j'ai de remettre à demain quelque chose qui devrait être réglé assez rapidement pour que je passe à autre chose. Ou bien est-ce que je dois donner à cette idée obsédante moins d'importance et essayer justement d'apaiser cette situation en amenuisant son importance. Donc voilà, je crois que je peux être partagée entre une idée obsédante qui m'oblige à résoudre un problème, à résoudre une situation difficile, ou bien une idée obsédante qui prend trop de place et me dire bon, maintenant je passe à autre chose et puis je réglerai ça peut-être plus tard parce que c'est pas si important.
Je ris parce que je trouve que toutes vos réponses me donnent un petit morceau de la réponse et que j'ai l'impression que j'ai déjà conscience de tout ça, c'est-à-dire que, je pense que dans mon idée obsédante, l'idée du rejet, de l'abandon existe. Donc, Donc ça, c'est relié à ma propre histoire et c'est vrai que c'est à moi de le régler en fonction de... C'est de voir quel est mon abandon à moi, mon rejet à moi, de manière à ce que j'arrête de le mettre sur l'autre et que je le prenne en charge. Mais c'est vrai aussi que je pense que j'ai eu un appel d'âme et c'est pour ça que j'ai eu cette, que c'est obsessionnel, sinon ça ne serait pas obsessionnel. Je pense que véritablement il y a eu une communion, que cette communion a été coupée. Certainement de ma faute aussi, parce que j'ai eu peur, parce que comme tu disais, je ne sais plus ton prénom m'échappe là tout de suite, mais en tout cas, c'est-à-dire que entre ce que mon âme veut et ce que mon ego veut, il y a quelquefois une distance et il n'y a pas forcément le courage d'aller vraiment vers ce que mon âme désire. Et c'est pas vis-à-vis de cette situation qui me revient de façon régulière et qu'il faut que j'arrive à régler dans ma vie. Bon, ça, c'est une chose, mais c'est aussi vis-à-vis de mes décisions professionnelles, de mes désirs professionnels, de mes intuitions, où je sens qu'effectivement, ça pourrait correspondre. Alors, j'ai plusieurs propositions qui me sont faites sans doute par mes anges. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais comment concrétiser, aller réellement, ne plus être dans la peur et aller totalement vers ce qu'on veut, ça, c'est vraiment un travail qu'il faut que je fasse maintenant, ici et maintenant, à partir de maintenant. Et puis, aussi la distance que tu m'as proposée est totalement vraie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où est-ce que c'est vraiment si important ? Est-ce qu'il faut vraiment que je focalise sur cette chose ou cette personne alors qu'elle, elle a sa vie à vivre, qu'elle m'a montré quelque chose et que peut-être elle a juste été là pour me montrer quelque chose et que je dois accepter de la lâcher ? Et pour moi, pour l'instant, je suis dans une forme d'impasse parce que justement, je ne recontacte pas cette personne. Mais en même temps, je sens que ce n'est pas juste aussi, qu'il y a quelque chose. Je ne voudrais pas être dans la précipitation. Tu nous as dit tout à l'heure qu'effectivement, si on est dans la peur, c'est notre ego. Si les choses sont libres, c'est effectivement que les choses sont justes. Et j'ai l'impression d'être entre les deux. Des fois, je suis dans cette espèce de peur, c'est-à-dire que j'ai envie d'être dans la précipitation parce que j'ai envie que ça se règle, j'ai plus envie que ça me prenne la tête. Et d'autres fois, je me suis dans une forme d'ouverture qui est de dire « je lâche, mais j'en ai encore besoin ». Et le mot « besoin », je sais qu'il n'est pas forcément juste, mais pour l'instant, c'est ce que je ressens. Voilà.
Alors il y a deux leçons du cours qui se suivent et qui sont assez intéressantes. Je crois que c'est 179 et 180. Je vais essayer de juste de les retrouver. Il me semble que elles disent non, c'est pas ça. Alors, je vais les dire de tête. Hein. La première, c'est montre-moi mes problèmes afin qu'ils soient résolus. Donc, je demande à l'esprit de me montrer mes problèmes et la leçon juste après, c'est montre-moi que mes problèmes sont résolus. Et en vérité, ce que ça dit, c'est que l'ego semble avoir une infinité de problèmes, mais qu'en vérité, il y a un seul problème qui est déjà résolu, et c'est la séparation. Le seul problème, c'est la séparation. Donc, ce problème-là est résolu parce que dans le monde absolu, il n'y a pas eu de séparation et qu'on a rêvé tout ça. Ça m'amène à parler de la guidance hein, et de cet espace où, Rosa Inès, tu parlais de... J'ai des espaces de synchronicité, j'ai des espaces d'intuition qui me révèlent des choses vraies, évidentes, que je reconnais tout de suite comme étant vraies. On en a tous parlé pratiquement. Ce sont des espaces où l'ego ne s'accapare pas tout l'espace mental, peut un petit peu être plus tranquille, et dans lesquels l'esprit juste qui me guide peut se connecter à moi. Hein. Et donc, j'ai le loisir, avec le pardon véritable, mais aussi simplement en faisant silence, d'avoir des réponses vraies à des questions vraies. en faisant silence et en demandant de l'aide. Hein. À qui? Bah, à mes guides, à mon intuition, à Dieu, tout ce qui vient de du monde de l'absolu, hein, dans lequel il n'y a pas de séparation, puisqu'il n'y a pas de temps, entre problème et solution. Comme tout ce qui s'est passé, c'est déjà passé, le problème a forcément déjà sa solution. Même si c'est rêvé, hein, mais le scénario est écrit. Donc, il est bouclé, le point final a déjà été posé. Donc, si je demande à mes guides, aide-moi, ça veut dire, moi, je suis à l'instant T, mais toi qui embrasses tous les instants, tu as forcément une vision sur la solution. Donc, moi, j'accepte de dire que tout ce que je vois, c'est très relatif, et je m'en réfère à toi qui est absolu. Donc, pour m'en référer à toi, je fais silence. Parce que c'est l'ego qui fait du bruit. Hein. Faire silence, ça veut dire laisser l'ego à petit feu, plutôt qu'à gros bouillon. Hein, et donc je m'assois, je ferme les yeux, je ralentis mon rythme, je me mets à l'écoute. Ça peut être des choses comme ça qui favorisent. Ça peut être le moment d'avant l'endormissement, ou ça peut être simplement se déclarer disponible pour entendre. Et tout ça, c'est la même chose. Et Osho disait, videz votre coupe. Parce que nous avons une coupe pleine de jugements, de croyances, de certitudes. Elle est tellement pleine, elle est à ras-bord, que tout ce qui vient par la suite ne se déverse pas dans la coupe, mais coule à côté, parce que la coupe est pleine. Donc, vider votre coupe, ça veut dire, soyez humble et arrêtez de prétendre savoir déjà la solution, alors que vous ne la connaissez pas réellement. Et donc, je ne sais pas, je vide ma coupe. Et dans cet espace d'humilité, je crée un espace vide dans lequel la réponse se déverse. Mais si l'espace est déjà plein, la réponse ne peut pas venir. Donc, je fais le vide, hein, c'est ça que ça veut dire, vider votre coupe, laisser l'ego en mode ralenti, en mode arrêt sur image, et demander de l'aide à la partie de vous qui est dans le non-temps, et qui sait ce qui est juste pour vous. Parfois, ce qui est juste, en effet, ne va pas plaire à l'ego, hein, parce que ça va pas être forcément la solution qui va aller vers plus de reconnaissance sociale, vers des choses qui plaisent aux autres, etc. Mais ça va être qui foncièrement et ma voix, hein, comme si c'était la partie de moi qui appelle à aller dans une direction. Moi, à un moment dans ma vie, j'ai senti l'appel de la spiritualité. J'étais dans l'informatique et c'était flagrant que je devais me mettre en marche pour mettre sur place des réseaux, des choses. C'était plus fort que moi. Quand je ne faisais pas, il y a quelque chose qui était inconfortable en moi. Et je sentais que j'étais en paix quand j'allais dans cette direction, j'étais pas tranquille, et je sentais bien que c'était juste, hein. Je sentais pas que c'était une obligation, mais c'était un appel pressant, hein. C'est peut-être ces formes-là qui a besoin d'identifier pour répondre ou pas à ces directions. Je me sentais aussi plus heureux quand je répondais à l'appel de mon âme, et plus agité quand je répondais pas à l'appel de ma mission. Hein, j'appelais ça ma mission. Et quand j'ai commencé à faire moitié de l'informatique et moitié de la spiritualité, je commençais à me sentir beaucoup plus rayonnant en moi. C'est-à-dire, je commençais à laisser parler la lumière, je dirais, qui voulait s'exprimer. Et au final, mon âme me disait, Avid, t'as quelque chose à remplir sur Terre, ben, commence à te mettre au boulot. N'attends plus, hein, c'est maintenant. Et il y a une autre chose qu'on m'a dit, à laquelle je crois assez fort, c'est plus intuitif qu'autre chose, c'est l'univers ne nous fournit pas des situations sans les ressources pour les gérer. les situations arrivent au moment où j'ai assez de ressources pour pouvoir les aborder. Si j'ai pas assez de ressources, comme tout est conçu intelligemment, j'ai la situation et les ressources en même temps. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est en face de moi que j'ai à régler, que je puisse me dire que ça arrive pas à n'importe quel moment. Ça arrive au moment où je peux y faire face. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant à appréhender. Ça rejoint ce que l'on disait à propos des synchronicités. La synchronicité, ça traduit une certaine cohérence dans l'univers. Hein. Pourquoi je pose mes yeux sur le cadran de la montre au moment où c'est 11h11 hein. Et pourquoi ça arrive plusieurs fois par jour? Voilà. Et c'est, on dit, c'est l'ange qui te tape sur l'épaule en disant « Regarde le cadran hein, » à ce moment-là. Et c'est un signal que tu es connecté. À ce moment-là, tu n'es pas seul, tu es en connexion avec le monde subtil. Voilà. Et 11h11, c'est presque le summum parce que 11 étant le symbole de la spiritualité, de la connexion du 1 et du 1 qui se rejoignent hein, pour être unis. Donc c'est l'unité. Et quand on répète, voilà, on répète deux fois, bah, c'est encore plus amplifié. Il y a 22h22, enfin il y en a quelques-uns comme ça. Mais toutes les répétitions sont destinées à attirer notre attention sur le fait que à ce moment-là précisément, il y a une conscience qui est là avec nous pour nous guider. Hein. Alors on peut ne pas y croire et à ce moment-là on déclare que c'est du hasard. Moi je dis encore une fois, ça n'a pas d'importance, qu'on y croit ou pas, parce que le moment où on est disposé à y croire, c'est aussi le moment où on est aussi assez ouvert pour que cette connexion se fasse. Et donc si on n'y croit pas, bah, ça veut dire que c'est pas encore le moment. Hein, tout ça n'a pas de... Donc il n'y a personne à convaincre hein, dans ces moments-là. Donc, ce qui est pour moi important, c'est de se rappeler que notre esprit conscient, c'est une partie de notre perception, comme une pièce à deux faces, et qu'on a l'autre face à notre disposition quand on demande de l'aide à l'autre face. Et cette autre face qui compose notre esprit, elle est beaucoup plus puissante que la première qui est limitée. Hein. Alors, comme il n'y a pas de hasard non plus, j'ai pioché une phrase que j'ai mémorisée là, qui parle de notre perception duelle de la réalité. Hein, pourquoi on perçoit les choses de la manière dont on les perçoit. Pourquoi je vois que ce tissu est vert, alors que vert, ça ne veut rien dire du tout. Qu'en vérité, c'est juste... un train d'onde qui a une certaine fréquence, donc ça vibre fort ou ça vibre lentement, et mon cerveau interprète ces ondulations comme étant vert. Mais si je devais voir les choses telles qu'elles sont réellement, je verrais des ondes, je verrais des particules qui bougent, mais je verrais pas une couleur. Hein. Donc j'ai décidé d'interpréter la réalité en disant cette ondulation-là, je veux pas la voir, je veux voir le vert, c'est tout. C'est très intéressant parce que en même temps que nous avons fabriqué le monde de rêve, pour remplir ce dessin-là, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait autre chose que l'amour, nous avons doté notre mental de fonctions qui disent voilà ce que je veux voir. Et donc, je me dote des outils qui voient ce à quoi je veux croire. Et donc, si ce n'est pas je crois ce que je vois, c'est je vois ce que je crois. Et c'est encore une fois en tant qu'esprit divin hein, que nous avons programmé notre cerveau pour dire je veux voir de la réalité seulement ce qui correspond à la croyance de la séparation et pas autre chose. Je veux pas voir le monde réel parce que le but c'est d'expérimenter la dualité. Donc je veux pas voir le monde réel. Pas dans un premier temps, peut-être. Hein. Et donc, nous avons une sorte de boîte noire dans laquelle il y a 5 trous. qui sont le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, etc. On peut rajouter l'intuition. Hein. L'intuition, c'est plus une antenne qu'un trou, et qui nous amène des informations que notre cerveau décode et qui nous disent voilà le monde réel, voilà le monde supposé réel. Hein. Mais il y a un programme. Comme il y a le programme qui dit cette couleur est verte, ou plutôt cette couleur n'est pas verte, elle est orange, pourquoi le programme ne me montre pas que le tissu vert est orange? C'est absurde comme question, parce que c'est une convention. Hein. On fait tous le même rêve, c'est-à-dire qu'on voit tous que ce train d'onde-là, on l'appelle vert. Hein. Voilà, donc il y a un programme entre les phénomènes que nous goûtons, voyons, observons, etc., et l'image que nous en faisons, l'odeur que nous en avons, il y a un programme qui décode. Hein, entre le monde extérieur et l'intérieur de la boîte noire, hein, et il y a 5 orifices. Et entre les deux, il y a une interprétation. Et qui a écrit le programme? Nous. Pour voir le verre en tant que verre, et pour voir les objets en tant que séparés, et pour sentir le temps en tant que perception que le temps s'écoule, on a écrit le programme. Et il y a une phrase très simple hein, qui dit ça. Nous avons besoin d'aide pour nous éveiller du rêve, parce que nos sens physiques n'acceptent que l'information qui renforce notre croyance en la réalité du rêve. Donc nous avons créé un filtre en même temps. Nous avons mis des lunettes sur nos yeux pour qu'ils ne voient pas le monde réel, pour qu'ils transforment le monde réel en le monde de nos rêves, celui auquel nous voulons bien croire. Alors pour la plupart des gens, c'est complètement incompréhensible ce que je dis. Parce que on va me dire, bah, je touche, je lis que c'est ça, je vois que c'est ça, je sens que c'est ça, tout ça c'est cohérent, mais tout ça, ça répond au désir de voir d'une certaine manière. De voir cette réalité-là comme étant séparée. Et si j'avais pas écrit ce programme, je serais dans le monde de l'absolu, dans le monde de l'amour, et je pourrais pas faire l'expérience de la dualité. Ça nécessitait que j'écrive un scénario. Et ce scénario, il est aussi codé dans mon cerveau et dans la manière de laisser venir les perceptions toutes. Et en vérité, il y a très peu de perceptions. Hein. Il y a très peu, il y a 5 orifices et puis c'est tout. Hein. Tout le reste, on ne sait pas comment ça se passe. Le monde réel, c'est pas seulement la vue, le goût, l'odorat, l'ouïe, tout ça. C'est énormément d'autres choses. Il y a plein de choses qu'on ne perçoit pas du tout. Une pensée invisible. L'amour invisible, la télépathie invisible, les infrarouges invisibles, les ultraviolets aussi. Il y a énormément de choses auxquelles nous n'avons pas accès. Nous avons dit, entre ça et ça, je veux bien voir. Au-delà, ça m'intéresse pas. Donc, je le laisse dans l'invisible. L'aura, il y en a qui la voient, il y en a qui la voient pas. La plupart des gens ne la voient pas. Voilà, donc on peut modifier un peu notre code pour voir, mais à la base, notre matériel génétique de base, c'est je ne vois que ce que j'accepte bien de voir. C'est très fort, hein, ça. Ça peut faire peur aussi, pour certains. Pour quelqu'un qui n'est pas préparé à ça, ça veut dire rien de ce que tu ne vois n'existe réellement. Tu as décidé que ça devait avoir cette forme-là, que ça devait avoir ce goût-là, que ça devait avoir cette couleur, y compris les personnes humaines. Voilà. En vérité, on est un, on est Dieu, mais on a décidé de s'imaginer fragmenté, et donc on programme notre esprit pour que ce soit en effet duel. Chapeau, encore une fois, chapeau, c'est fait admirablement. Je crois vraiment que tu es à 2 mètres de moi, que t'es pas moi, que t'es une femme et moi un homme, toute la panoplie y est, hein, la totale, hein. Que tu m'aimes, que tu m'aimes pas, tout. J'ai réglé les moindres détails, mais c'est les petites lignes du contrat, tu sais, celles qui sont écrites en police numéro 2, les conditions particulières. Vous n'acceptez de voir que en fonction de vos croyances. Et j'ai dit oui à ça. Hein. J'ai dit oui en pleine conscience. Et après, quick, j'ai basculé dans un autre, dans une autre perception. Mais il y a qu'une partie de mon esprit qui a basculé. Il y en a une qui est intacte. Et c'est à celle-là que je demande de l'aide quand j'ai pas de réponse, quand je suis obsédé. Hein. Voilà. Moi, je dis de cette manière. Je dis, toi qui sais. Dans le silence que je te dédie, donne-moi la réponse, donne-moi la solution. Toi qui connais déjà la solution, je me mets à l'écoute. Hein. Toi qui sais la vérité. Et quand je dis toi, je m'adresse à moi dans la partie non limitée. Hein. Il ne s'agit jamais d'une hypothétique personne ou entité ou voilà, c'est moi-même, mais dans la partie non limitée. Hein. Alors on appelle ça nos guides, on appelle ça notre ange gardien, les mots sont ce qu'ils sont, hein, mais ils sont toujours limités, même quand je dis la partie de moi qui n'est pas limitée, ce sont des mots limités qui ne peuvent pas vraiment décrire cette réalité-là. Voilà, s'il y a pas quelque chose à dire maintenant qui est là, on s'arrête, mais sinon c'est possible.
Moi, je voudrais juste dire un truc que j'ai pensé tout à l'heure par rapport au. Alors, c'est un peu différent, mais par rapport au en fait, que les autres sont le miroir de soi-même. Enfin, c'est voilà, cette idée-là. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le jugement. En fait, moi, je me dis. J'ai commencé à vouloir. À écrire quelque chose sur justement les expériences que j'ai vécu. Et à chaque ligne, j'ai une tonne de jugement qui apparaît. Et je me dis, mais voilà pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire ça. Parce que justement, je trouvais que les autres me jugeaient là-dessus. Je me dis, bon, bah, tiens, je vais faire ça. Et comme ça, au moins, moi, toute seule, je vais, voilà, ça va me permettre de transmuter mon expérience. Voilà. Et je me dis, mais c'est dingue le nombre de jugements, mais au kilomètre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme l'expérience que tu disais tout à l'heure par rapport au. C'est que le fait de d'écrire me permet justement d'avoir cette distance avec cet ego qui n'arrête pas de me dire, ah, mais t'as vu ce que t'écris, mais c'est n'importe quoi. Enfin bon. Et je m'en prends plein la figure, mais alors. Et là où c'est très intéressant, c'est que j'ai. Voilà, la même chose qu'avec la pastille, j'ai cette distance-là. Qui me permet de voir à quel point, parce que ça en fait c'est ça que je fais tout le temps en permanence dans ma vie, sauf que là c'est encore plus, enfin peut-être pas tout le temps, mais en tout cas voilà, là c'est flagrant quoi, c'est vraiment flagrant, et voilà, je trouve que c'est intéressant. Bon, voilà.
Moi, dans un premier temps, je disais à mon ego, quand je le surprenais la main dans le sac, comme maintenant je dis, je disais cause toujours, hein, à mon ego qui voulait me convaincre de choses que c'était nul ce que je faisais, ou cause toujours, et dans cause toujours, comme j'ai vu qu'il y avait un petit jugement, j'ai arrêté de dire cause toujours, et j'ai commencé à le voir comme un enfant qui fait n'importe quoi parce qu'il n'est pas encore. Il est limité dans ses expériences, dans sa perception. Donc, il a peur, il s'effraie, il panique, et donc, je le rassure, hein. Et je peux avoir même de la compassion. Même si l'ego, ce n'est pas une entité, on dit enfant dans le sens émotionnel du terme, ou dans le sens où c'est une croyance basée sur la peur, hein. Donc, c'est vraiment le. La peur et son royaume, hein, à l'ego. Donc j'ai pu ensuite avoir de la compassion pour cette partie de mon esprit qui ne connaît pas l'amour véritable, hein, et qui réside à l'écart de l'amour véritable, et qui, parce que il a été programmé pour ne pas connaître cet amour, ne parle que de peur, ne parle que de drame. Et je me dis, oh oui, ça c'est, il a vraiment besoin qu'on l'aime. Hein, cet ego-là, la partie mature, adulte de moi-même, celle qui se rappelle qu'elle est dans l'amour inconditionnel, peut ouvrir les bras à cette partie-là. Et c'est, je pense que l'éveil véritable, c'est cette réunification intérieure. Hein, comme un mariage, comme un, plutôt que de le mettre à l'écart, je le remets dedans. Je le replonge dans le bain duquel il est sorti. Parce que je ne peux pas attendre de l'ego qu'il me fasse un cours sur l'amour inconditionnel. C'est lui demander l'impossible. Il a mis des lunettes noires pour ne pas voir. Donc, au moins que j'accepte qu'il a mis des lunettes noires. Hein, et que je sache que moi, mes lunettes, elles sont un petit peu teintées. Et puis, je peux changer de paire de lunettes aussi. Alors que cette croyance d'être séparée, elle est une seule pensée. Elle est le fruit d'une seule pensée. Hein. Je suis en dehors de l'amour divin. Hein. Et c'est tout. Hein. Il suffit que je change cette pensée pour guérir. Alors, je voudrais terminer par une chose qui m'est venue quand tu as parlé, Estelle. Il y a une leçon qui dit... Je suis le fils de Dieu non coupable et dans mon innocence réside mon salut. C'est peut-être pas les termes exacts, hein, mais la source de toutes les pensées négatives et de l'ego en particulier, c'est je suis coupable de la séparation, de m'être séparé. Donc quand je retrouve mon état d'enfant innocent, lumineux, l'innocence me fait quitter cette pensée erronée de séparation. Donc je suis le fils de Dieu non coupable et dans mon innocence réside mon salut. Hein, c'est vraiment c'est la pensée qui peut défaire. À peu de choses près, c'est les mots. Hein, c'est les mots. Mais il y a une seule pensée dont la séparation est issue, hein, une seule pensée. Et l'ego est l'incarnation de cette pensée. Voilà, on va s'arrêter si ça vous convient. On pourra continuer hors micro. Voilà, donc je vais m'absenter un petit peu. Donc les réunions reprendront au début juin, a priori. J'enverrai un email. Pour donner la date précise. Voilà, dans la joie de ces futures retrouvailles, je vous souhaite une bonne continuation et un bonne fin de week-end à ceux qui sont maintenant ici. À très bientôt.